MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». On se retrouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangélisation. Quelle est la bonne technique d'évangélisation ? Et là, tout le monde a tellement hâte qu'on lui dise la clé ultime pour être sûr d'amener des âmes au Seigneur. Eh bien, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Mais il y a une bonne motivation. Yvan, il commençait à transpirer à côté de moi. Mais il y a une bonne motivation, c'est l'amour. Et si le moteur, c'est l'amour, la technique sera forcément la bonne. Donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie et avec le pasteur Yvan Carluère. Je te représente très rapidement, pasteur de l'église MLK à Paris. Comment vas-tu, Yvan ?
Très bien. Ça va ? Très heureux d'être avec vous.
Et oui, aujourd'hui encore. On va passer une belle semaine ensemble avec plein de différents thèmes super intéressants. Et aujourd'hui, tu feras une rubrique famille et tu vas parler aux parents d'ados. Est-ce qu'il faut forcer son ado à venir à l'église ou plutôt comment le motiver à venir à l'église ? C'est bien ça ?
Ah ouais, puis c'est compliqué. Hein.
Ah ouais.
Parce qu'on les aime, on a envie qu'ils avancent avec Dieu. Et on se dit, est-ce qu'il faut qu'on soit plus dur ou plus cool ? Et même de deux ados qu'on a...
C'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Ah.
Donc, c'est comme les techniques d'évangélisation. S'il y avait une technique pour obliger... on va devoir être obligé de dépendre de la psychologie et du Saint-Esprit.
Tout à fait.
Un mélange des deux.
Tout à fait. Ben, on a hâte de t'entendre tout à l'heure parce que, comme je le disais hier, en fin d'émission, je pense que c'est un sujet qui est très attendu parce qu'il y a beaucoup de parents démunis et ben, beaucoup de parents font des erreurs sans le vouloir, en pensant bien faire. Ben, en fait, ils font tout le contraire de ce qu'il faudrait et puis on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Donc, on a hâte d'entendre ta rubrique tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va parler de cette bonne technique d'évangélisation. On va parler d'évangélisation tout court et on commence avec notre pensée du jour.
Alors, on est tous appelés à prêcher l'Évangile, à parler du Seigneur dans notre environnement. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de bonne technique. La technique ultra sophistiquée qui fera toute la différence n'existe pas. Par contre, je vais vous partager 6 choses importantes qui pourront vous aider comme ça à parler du Seigneur à vos proches ou aux personnes que vous rencontrez. La première chose, c'est que l'évangélisation, eh bien, ça commence par une collaboration avec le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, le livre où on a vu le plus grand nombre de conversions, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et cela a entraîné des conversions à grande échelle. Et c'est la direction du Saint-Esprit, quand on lit Actes des Apôtres, qui a été la clé principale pour gagner des âmes à Christ, en fait. Donc, il est important ici de ne pas juste le faire, parce que plusieurs personnes vont sortir pour évangéliser, mais c'est la direction, en fait, que le Saint-Esprit donne qui est garant de l'évangélisation. C'est pas la sortie en elle-même dans le cas des personnes qui sortent, en fait. Donc, vous-même, vous pouvez évangéliser, vous pouvez parler du Seigneur, mais le plus important, c'est de chercher la direction du Saint-Esprit. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que les âmes s'accouchent dans la prière. Entre guillemets, le mot accoucher. Les apôtres, on voit aussi qu'ils ont prié pour gagner des âmes. Ils étaient dans la chambre haute avant la Pentecôte, et tout au long de leur ministère, même lorsqu'ils étaient menacés, ils priaient. « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec puissance pour qu'ils se fassent en fait d'autres disciples. » Donc, on voit ici que dans la prière, ils ont vraiment été présents pour pouvoir toucher les cœurs des gens quand ils leur parlaient de l'Évangile, quand ils proclamaient Jésus-Christ. Troisième chose, c'est que l'évangélisation n'est pas obligée de se faire d'une seule manière. Alors, il y a tellement de manières d'évangéliser aujourd'hui. Il y a des personnes qui aiment aller dans la rue pour parler un à un avec des gens. D'autres, c'est par des œuvres sociales. D'autres vont le faire dans le métro. D'autres vont faire avec un haut-parleur dans certains endroits stratégiques. Certaines personnes vont organiser des événements pour évangéliser. Même dans votre boîte à lettres, vous allez retrouver des prospectus. Des personnes vont peut-être venir cogner à votre porte. Bref, il y a tellement de façons de faire dont je vous encourage à ne pas chercher forcément à imiter quelqu'un, mais à voir ce qui vous correspond le mieux et de le faire tout en sortant de votre zone de confort. Moi-même qui vous parle, un jour j'ai demandé à Dieu, aide-moi à évangéliser. Avant, je sortais beaucoup à Montréal pour évangéliser dans les rues Et un jour, j'ai fait cette prière. Et ce qui s'est passé, c'est que Jérémy Sougrie, que vous connaissez, il a été invité à un événement. Il m'a dit, ben, vas-y à ma place. Quand je suis allée à cet événement-là, j'ai vu une personne que je n'avais pas vue depuis des années. Et cette personne, ben, elle connaissait pas le Seigneur, je lui ai parlé. On a commencé à lire la Bible tous les jours. Et puis après, elle m'a amené d'autres personnes, d'autres. Et ça a fait un groupe de plusieurs personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui sont venues comme ça. C'était aussi une façon de le faire qui était différente. Donc, ne restons pas braqués. Le Saint-Esprit va nous conduire alors qu'on lui pose des questions. La quatrième chose, c'est que l'évangélisation est plus simple que ce que l'on croit. Il ne faut pas toujours trop se poser des questions. Parfois, c'est juste votre témoignage personnel qui va faire la différence. Parfois, c'est juste ça qu'il faut présenter. Et parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais aborder la personne? Est-ce qu'il faut que je fasse comme si? Est-ce qu'il faut que je commence par dire ça? Je vais d'abord parler du soleil, après, etc. Non, faut pas trop se poser des questions. Mais par contre, comme je dis, c'est important quand même de sortir de sa zone de confort. Sinon, ben, on peut aussi se limiter à ce niveau-là. Une autre clé, on en a parlé rapidement au début, c'est l'amour. En fait, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Donc, la façon dont tu vas te comporter vis-à-vis des personnes, mais ça, c'est déjà un message en soi. Donc, c'est important qu'on puisse manifester ben, l'amour de Dieu, tout simplement. Et ça va tellement parler que ça va ouvrir la porte des cœurs de certaines personnes. Et on pourra leur dire, en fait, derrière mon comportement, ben, se cache tout simplement Jésus-Christ qui m'a transformé. Et la dernière chose, c'est qu'une bonne évangélisation doit produire un fruit de repentance dans le temps. Ceci implique quoi? C'est qu'il faut être persévérant. Ça ne se fera pas toujours le premier jour. Moi-même qui vous parle, la personne qui m'a amené à Christ a dû patienter longtemps. Mais ça s'est fait par la grâce de Dieu. Donc, soyons persévérants et marchons avec le Saint-Esprit. Et on verra que, en fait, c'est pas si compliqué que ça, au final.
Amen. Merci Aurélie pour ta belle pensée. Et je propose qu'on puisse tout de suite s'arrêter sur le terme évangélisation, parce que tu voulais préciser certaines choses sur ce sujet, Yvan.
Juste, c'est un fait. Plus on en parle, moins on le fait. Mm. Bizarrement, ceux qui utilisent le plus le mot évangélisation, c'est ceux qui gagnent le moins de personnes dans leur foi, dans la communication de leur foi. C'est-à-dire que plus on vieillit avec Dieu, plus on devient professionnel, plus on est déconnecté des réalités, on emploie des mots qui paraissent très spirituels, mais dans la vérité, on perd de l'impact. Pourquoi? Je donne juste un exemple. Si jamais vous avez une amie, un ami musulman et qui veut vous faire connaître la mosquée, qui veut vous parler de Mohammed, etc., et qui vous dit « je vous invite à une réunion d'islamisation », tu diras « non, pas l'islamisation, amène-moi juste à la mosquée et ça va être OK ». Tous les mots en « zation », c'est une façon quelque part de mettre l'autre en boîte. Et d'évangélisation, c'est comme si on essayait de le faire rentrer dans une case de l'évangile. Pour son bien, hein, je ne dis pas qu'il y a des... Alors pardonnez-moi, si comprenez bien ma pensée plutôt que mes mots, comprenez où je vous amène. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on prend des concepts bibliques qui sont bibliques, le mot évangélisation, il est biblique, mais on le durcit et on le réduit. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est présenter Jésus. Une bonne nouvelle, c'est une personne qu'on présente, c'est pas ni une islamisation, ni une bouddhisation, ni une catholicisation, ni une évangélisation. On leur présente une personne qui est Jésus. Et c'est là où on peut leur donner envie de connecter avec quelqu'un qui change nos vies. Et ça, mais ça change tout. À partir du moment où on rentre dans une attitude « je dois gagner des âmes », les âmes deviennent des numéros, les âmes deviennent des objets.
Absolument.
C'est pas ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à partager notre foi à des personnes qu'on aime et à qui on veut passer l'éternité avec elles.
Exactement. Et c'est pour ça que, tu vois, au début, je disais, il n'y a pas de technique, mais il y a une motivation.
Oui.
Parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'amour derrière, si on fait les choses juste par devoir, finalement, l'objectif derrière aura juste été de soulager un petit peu ma conscience, de me dire, j'ai parlé de Jésus à 5 personnes aujourd'hui, mais peu importe le résultat. Alors que mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est qu'il y ait vraiment des gens qui puissent connaître Jésus-Christ, comme j'ai eu la grâce de le connaître. Et comme tu le disais dans ta pensée, Aurélie, ben, des fois, ça peut prendre du temps. Et puis, ça peut prendre toutes sortes de formes. Alors, bien sûr, il y a des gens qu'on va croiser une fois dans notre vie, qu'on ne reverra plus jamais. Ben, le fait d'avoir pu semer une parole qui peut peut-être changer leur vie dans 5 ans, ben, c'est extraordinaire et ça vaut la peine. Mais il y a ces gens aussi qu'on approche de nous et qu'on côtoie jour après jour. Et là, si on y va à coups de marteau, ben, forcément, on risque de fermer la porte. Alors que si c'est vraiment l'amour, si j'ai vraiment à cœur le salut de cette personne, mon intérêt, c'est que cette personne puisse avoir la grâce d'avoir ses yeux qui s'ouvrent sur ce sauveur, ben, je vais y aller avec tellement, tellement d'amour. Une passion, mais une passion qui est modérée parce que je ne veux pas le perdre, parce que je ne veux pas le brusquer, je ne veux pas foncer dans le tas, puis je veux surtout que ça fonctionne. Donc, mon objectif derrière, c'est Saint-Esprit. qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la clé de son cœur? Qu'est-ce qui va déclencher quelque chose? Et dans certains cas, peut-être les dons de l'esprit vont m'être utiles à ce moment-là. Mais dans certains cas, peut-être que d'aller l'aider dans son déménagement va toucher son cœur d'une façon beaucoup plus forte que les mots que j'aurais pu dire. Parce qu'encore une fois, j'aurais été motivée par l'amour. Pas dans le but de rajouter, comme tu le dis, un numéro à l'église. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention. Puis je pense qu'avec nos enfants, des fois, c'est aussi l'erreur qu'on peut faire. Donc je te propose, Yvan, qu'on puisse enchaîner tout de suite. On va aider les parents d'ados. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parents d'ados quand nos enfants n'ont plus trop envie d'aller à l'église? On en parle tout de suite dans la rubrique famille.
Alors, on voit ensemble cette question. Que faire si mon ado ne veut plus aller à l'église? Alors, si vous n'avez pas été directement confronté à cette situation, déjà, un, ça m'étonnerait. Deux, vous connaissez quelqu'un qui est en galère et qui essaye. Et alors, du coup, je vous partage mon cœur. Vous pouvez prendre et regarder ce qui est bon. Il y a un verset qui est la tarte à la crème qu'on réemploie tout le temps. C'est « Instruis l'enfant ! » dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il ne s'en détournera pas. Mm-hmm. Et du coup, c'est à la fois une promesse, mm-hmm. et c'est à la fois un stress. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais ça n'a pas marché? Est-ce que je l'ai mal instruit? Est-ce que j'ai mal géré, etc. Alors, n'oubliez pas qu'il y a trois personnes dans cet objectif. Il y a toi, donc ta personnalité va jouer énormément. Il y a lui ou elle, et il y a Dieu. Mm-hmm. Donc du coup, il y a trois personnalités. C'est un triangle, cette histoire. C'est assez complexe. Alors, on zoome un petit peu. Parlons de lui ou de elle. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Je dis, c'est dommage, j'aurais dû mettre instruit l'ado. Parce que l'enfant, à la rigueur, sait le faire, mais c'est l'ado. Moi, j'ai une fille qui a 10 ans, ça passe. Hein. 14, c'est autre chose déjà.
Ben oui, c'est clair.
Voilà, pourquoi? Alors, juste pour information, j'ai été revérifié tout à l'heure pour vérifier si ce que je vous dis est exact. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, qui emploie ce texte, c'est traduit par l'enfant. En hébreu, c'est nar, qui en fait se traduit probablement mieux par jeune homme. Mmh. Ou par serviteur.
Ok.
Donc en fait, tu le retrouves évidemment avec, par exemple, Abraham et Isaac. Avec l'enfant, il mit l'enfant. Donc nous, on voit Isaac, je ne sais pas quelle est votre projection, quel âge avait Isaac, si je vous le dis comme ça, toi qui es dans ton écran, quel âge avait Isaac lorsqu'il était prêt au sacrifice? Moi, dans ma tête, je projette quoi, 6, 7, 8 ans.
Oui,
après, je me dis, bah non, quand même, il portait des trucs, peut-être 9 ans, 10 ans. Alors, c'est, si on fait une analyse très chronologique de la Bible, Isaac, à ce moment-là, il aurait probablement aux alentours de 14 ans. Bah, c'est un ado.
Ah ouais, clairement.
Donc l'enfant qui va aller jouer, c'est un ado, ok. Okay. Juste, toujours pour parler de Isaac, si vous prenez le Talmud pense qu'il a 34 ans.
Ah bon?
La tradition juive, au moment du Donc, voilà. Donc il a quelque chose entre 14 et 34. Donc, pour tous les tanguis qui restent tard à la maison, je sais pas s'ils sont encore des ados, mais on va voir. Bref. Donc du coup, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Tous les Hébreux, nous on a oublié ça, mais pense à un ado en vrai. Ouais. Et donc les familles juives, qui sont extrêmement doués dans la communication de la foi. Parce que quel peuple, réfléchissez juste un instant, quel peuple transmet si fort la foi à ses enfants qu'après des milliers d'années, alors qu'ils sont un confetti numérique, ils arrivent à en exister? Théoriquement, par mariage, ils devraient disparaître en l'espace de deux générations. Or, ils maintiennent le cap. Pourquoi? Parce qu'elles ont réussi, notamment les mamans juives, les mères juives, à transmettre à leurs enfants leur foi. Si eux ont réussi, à combien plus forte raison, toi qui travailles le Saint-Esprit, tu as la capacité. Alors, laisse-moi juste te dire petite chose. Premièrement, donc, l'enfant, ça dépend de son âge. C'est pas pareil de communiquer à un enfant qui a moins de 10 ans, il est dans l'admiration de papa-maman. On va vous dire, ce que tu vas faire, il t'admire, il va te suivre. Il s'habillera propre, le dimanche, avec le petit costume et tout, ça a plaisir. Okay. 14 ans, il va être probablement dans une crise. Où il va s'affirmer en te disant non. Et plus tu vas dire que tu es chrétienne, plus tu vas dire « Dieu dit que », plus tu vas le braquer contre Dieu. Parce qu'à cet âge-là, il remet en cause dans sa construction personnelle le parent. Donc ça, arrête de croire qu'il est fâché contre Dieu. Il est juste en train de se construire. Prends un peu de recul, toi. Et troisième chose, sa psychologie. Il y a des enfants, vous savez, j'étais professeur pendant des années, c'est pareil pour les élèves. Il y en a qui travaillent parce qu'ils ont peur de la mauvaise note. Il y en a qui travaillent parce qu'ils ont envie de la bonne note. Tu as toujours le positif et le négatif. Il y en a qui fonctionnent plus au bâton, il y en a qui fonctionnent plus à la carotte. Mmh. Donc, regarde ton enfant, s'il est plus sensible au compliment ou s'il est plus sensible à la règle. Mmh. Moi, j'ai deux enfants. Si jamais j'applique la même chose aux deux, je vais dans le mur. Hein.
Non, je suis d'accord.
Je vais dans le mur. Hein.
Tout à fait.
Si mon garçon Ethan, je lui parle de la règle, etc., je le perds. Hein. Mmh. Je le perds. Si je lui mets la pression... Mmh. Il s'enferme, comme une huître, il se fige, il n'est plus là. Alors que ma fille, Shaina, ça marche. Elle va vouloir être performante, elle va vouloir faire... Voilà. Pas mon fils. Mon fils est à l'inspiration. Et donc, je termine en vous disant ceci. Donne du sens plutôt que des ordres. OK ? Je me suis mis cette petite note pour moi. Ne lui donne pas des certitudes, tes certitudes. Parle avec vérité. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « c'est comme ça et Dieu dit que », mm-hmm. Sois transparent avec lui, sois vrai. Dis-lui, voilà ma vie. J'ai raté ça, j'ai réussi ceci. Maman, elle est vraie. Papa, il est vrai. Je connais pas tout de Dieu. Surtout quand t'es un ado. Arrête de faire comme si tu savais tout, quoi. Et c'est pas facile. Je pense notamment à tous ceux qui sont les papas africains là, qui disent « Ouh, il a montré nos faiblesses et tout. » Si, mm-hmm. C'est important aussi. Mm-hmm. Parce que là, tu vas le gagner à jamais. t'inquiète pas. De toute manière, il sait tes défauts. Il te le dit plus vite. Et toujours beaucoup plus inspiration que moralisation. Mm-hmm. Voilà. C'est pas à force de paroles que vous serez exaucé. Ben, c'est vrai aussi avec l'enfant. C'est pas à force de paroles que tu arrives à le convaincre.
Non, c'est mm-hmm. ça.
Donc, moi, je. Après, on va aller dans la discussion, mais on va donner encore quelques tips pour pouvoir mm-hmm. aller mieux. Allez-y.
Ben, moi, tu vois, ce qui me fait toujours réfléchir quand on aborde ce genre de sujet. Et la question qui ressort souvent, en tout cas à l'église, des mamans viennent me voir, des papas même des fois, c'est « il ne veut pas venir, est-ce que je le force ou pas ?» C'est, mmh. c'est le thème de ta rubrique, hein, ouais. Mais jusqu'à quel point je dis « ok, écoute, tu peux rester à la maison, et puis en fait, non, je veux que tu viennes. » Tu vois, c'est dans, au-delà de « je comprends tout ce que tu dis au quotidien, on l'inspire mmh. et tout, mais quand arrive le dimanche matin, et que ton ado, il ne veut pas sortir du lit, c'est compliqué quand même. Hein. »
C'est qui ton ado ?
Ben, je sais pas. Allez, on va commencer, on va parler de 13 ans. Ouais, on va prendre les plus jeunes, là. Parce que je suis d'accord que ça dépend de l'âge. 13 ans, comment on fonctionne ?
13 ans versus 17, on peut faire.
Ouais, 13 ans versus mm-hmm. 17 ans, ben, c'est pas tout à fait pareil.
Mm-hmm.
C'est que tu es de plus en plus, au début, il est dans l'admiration, il est de plus en plus dans la construction de sa personnalité. Mm-hmm. Si tu l'écrases, tu sais ce qui peut se passer, c'est qu'il va y aller. Hein. Mm-hmm. Il va tellement détester l'Église que tu le paieras jamais.
C'est sûr. Mm-hmm.
Mais en même temps, si tu le laisses libre en disant « allez, vas-y, tu fais mm-hmm. ce que tu veux », regardez, aujourd'hui, la foi catholique, par exemple, en France, en Europe en général, ils ont tellement laissé la liberté que si tu ne donnes pas à l'enfant le goût de la nourriture, le goût de la bonté de la relation avec Dieu, il ne va même pas y aller. Ouais. Je vais dire, Satan a plus de cartes qui brillent avec des choses qui sont un petit peu transgressives et il va aller vers les copains.
Ben oui.
Donc, il y a effectivement une limite. C'est au cas par cas. Et je sais qu'on voudrait avoir une règle. Le Saint-Esprit individualise chacun de tes enfants. Tu dois avoir une révélation personnelle. Tu vois, tu as peut-être regardé cette émission parce que tu dis « je veux avoir la réponse mm-hmm. ». Moi, je t'ai dit « la réponse », tu ne vas pas avoir une réponse vraie pour tous les ados de France, d'Afrique, absolument. De Canada, d'Amérique latine et d'Asie. Mm-hmm. Tu dépends de la culture, ça dépend de sa psychologie, ça dépend de toi. Et tu vas devoir faire l'effort de demander au Saint-Esprit, un à un, pour lui, pour elle, papa, qu'est-ce que je fais ?
Vraiment.
Parce que c'est un triangle. OK, je vois mes idées, mais ses idées à lui, mais toi tes idées. Juste une chose peut-être, mmh. Yveline et toi Aurélie, mais pour moi c'est important, c'est que au début c'est ton enfant et après c'est un être adulte. Quand il va être adulte, tu es obligé de lâcher.
Mais oui.
Tu quitteras ton père et ta mère, puis c'est parti.
Tout à fait.
Mais à l'ado, il y a quelqu'un de plus important que toi. Que plus important que moi, et je parle à tous les parents. Ce sont ses amis. Mm-mm. Et entre 14, 15, 16, 17, c'est le moment où les amis sont des plus... La référence et l'importance de l'ami et de leur discours va passer devant la vie des parents.
Largement.
Ah ouais, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas amené à l'église avant, mm-mm. et s'il n'a pas connecté des amis à l'église,
oui.
c'est-à-dire que son entourage va être très anti-Dieu, mm-mm. et là, tu es à peu près foutu. Donc, ce n'est pas tant seulement le fait d'aller à l'église.
Recevez ces paroles d'encouragement.
Non, mais sincèrement, s'il a que des amis inconvertis.
Non, mais je vous dis vraiment, je
suis pasteur d'une église où je dis aux mamans, votre enfant n'a que des amis inconvertis, c'est un miracle.
Non, c'est compliqué.
S'il s'en sort. Ouais. C'est un miracle s'il s'en sort. Donc, dans la stratégie, au-delà de l'église, c'est qu'est-ce que l'église ? Par exemple, c'est amène-le peut-être à faire du foot avec des chrétiens.
Ok, oui. Okay.
Mm-hmm. C'est-à-dire que l'amener à un club de foot, nous, on a créé des districts, on a essayé de varier pour qu'il y ait l'ado, il cherche des clans, des clics, c'est comme ça fait partie de son âge. Trouve-lui un clan, un clic qui soit dans lequel Jésus soit au centre.
Mais oui.
Et c'est pas forcément la chorale de l'église. Mm-hmm. Voilà.
Mais ça peut.
Non, mais soyez intelligents, mesdames, messieurs. Trouvez une bonne clique, un bon clan à votre enfant dans lequel, si possible, Jésus est au centre.
Mais oui. Je pense qu'il y a un truc important aussi, des fois, on va se disputer, mais tellement fort avant d'aller à l'église. On va crier, on va forcer notre enfant à venir à l'église, on va le traîner presque par les cheveux, j'exagère, mais volontairement. Mais on insiste tellement, mais imaginez dans quelle disposition, en fait, arrive l'enfant à l'église. Il s'est fait crier dessus, il s'est fait menacer, il a eu droit à la totale, limite, il est puni. Et puis, il arrive à l'église comme ça. Imaginez, moi, personnellement, si je me dispute avec Michael avant d'arriver à l'église pendant le temps de louange, je ne vais pas être là, wouhou, je ressens la présence de Dieu. Tu as le cœur qui s'est endurci. Donc, moi, j'ai entendu beaucoup de parents qui m'ont raconté comment leurs enfants, dans des temps de louange, tout à coup, ont été touchés. Mais ils n'étaient pas debout, les mains levées, ils étaient assis, ils avaient l'air un peu déconnectés. Mmh. Et puis, en fait, tout à coup, ils ont vécu quelque chose. J'ai une maman qui me racontait comment son ado, pendant la louange, tout à coup s'est levé, puis lui a demandé pardon, puis lui a raconté tout ce qu'il vivait dans sa vie. Okay. Parce qu'il est en contact avec la présence de Dieu. Oui. Dieu peut intervenir dans son cœur. Mais s'il arrive avec le cœur fermé, rempli de colère, fâché, les bras croisés comme ça, même si le Saint-Esprit essaie de rentrer, ça passera pas, en fait. Donc je crois que la façon dont on va les amener à l'église va être hyper importante. Et justement, dans la communication, dans l'explication et dans l'inspiration, plutôt que dans l'obligation, la fermeté, parce que ça va absolument rien donner. Puis comme tu le dis, là, ok, peut-être vers 12-13 ans, on va pas le laisser tout seul à la maison, mais il va attendre, dès qu'il va être en âge de rester à la maison, puis ça dépend vraiment encore de vous en tant que parents, qu'est-ce que vous estimez qui est l'âge où il peut rester seul à la maison, mais quoi qu'il en soit, ça va arriver assez vite qu'il va vous dire « non, je ne viens plus », parce qu'il aura tellement été dégoûté et pas inspiré, puis il aura rien vécu. Parce qu'il aura souvenir de ces temps de louange où il est en train de ruminer combien il nous déteste. C'est horrible à dire, mais c'est des choses qui arrivent.
C'est pour ça que les amis, c'est votre relais, c'est votre chance. Ses amis à lui. Mm-hmm. Donc, si tu ne peux pas influer sur le style de louange, le prédicateur et tout ça, essaye d'influer. Et je voudrais dire, peut-être la meilleure solution, c'est choisir un camp de jeunesse. Un camp d'ados, etc. Ça, c'est la clé. Ça a sauvé tellement de situations dans lesquelles il y a du fun, des activités et des bons messages aussi. Moi, j'avoue, j'étais forcé. À 15 ans, ma sœur, elle m'a inscrit dans mon dos. Je l'ai détesté. Les trois premiers jours sont toujours horribles, surtout quand t'es ado, parce que t'es mal dans ta peau, etc.
C'est sûr, ouais.
Puis après, passer le drame, tout le monde survit. Tout le monde apprend à nager une fois qu'il est dans l'eau. Au bout d'un moment, il faut survivre.
Il n'y a pas trop de séquelles, ça va ?
Un peu. Tu vois, j'ai des problèmes des fois avec la religion encore. Mais si jamais ils tissent des amitiés...
Mais oui.
Alors après, ça dépend qui va choisir dans le camp de jeunesse.
C'est ça. Et comment on fait les suivis, justement, pour les enfants ? Est-ce qu'un parent doit le faire, déjà, par rapport à sa foi ? Est-ce qu'il faut faire des suivis pour se dire, ok, je vois que mon enfant, il avance quand même dans la foi, tout va bien. Ou alors, advienne que pourra, on a essayé de faire ce qu'on a.
Qu'est-ce que t'appelles le suivi ?
Essayer d'évaluer. Est-ce qu'il grandit vraiment ? C'est ça. Est-ce qu'on accompagne ou pas ?
Moi, dans mon cas personnel, ce qui m'a énormément aidé, il y a un moment où tu ne peux plus le forcer à lire la Bible ensemble, de famille, etc. Il y a un moment, c'est le culte familial, je dis la vérité, ça ne marche plus. Pourtant, on a essayé chez moi aussi, ça ne marche pas très bien. Enfant, moins de 10 ans, ça marche très bien. Mais au bout d'un moment, ça commence plus compliqué. Par contre, l'ado, il est dans la discussion. Il est dans le pourquoi de toutes les règles, la remise en question. Donc, là, c'est la discussion. Et dans le suivi, c'est laisse ta porte ouverte. C'est-à-dire, si tu dois faire un effort, et si c'est vrai que tu aimes tellement ton garçon, tellement ta fille, prépare un temps dans ta journée où tu n'es pas dans tes soucis, où je parle à un homme, il n'est pas devant son portable, dans son téléphone, devant la télé, et où tu as un temps vrai. un temps où l'ado, il va arriver, il va dire « Papa, je sais pas si je l'aime. Mm-hmm. Tu parles de qui ?» Bah, en fait, il y a une fille. Et là, c'est gagné. Parle.
Ouverte, ouais.
Parle avec lui. Écoute-le. Mais si jamais il voit que tu n'as pas envie d'écouter, ça, c'est un suivi intelligent. Mm-hmm. Avoir une porte ouverte à tout moment, parce qu'il y a un moment où il a besoin. Il est, même s'il te rejette dans plein de choses, mm-hmm. il dit « Tu peux me donner un conseil quand même. »
Mais oui. Mm-hmm. Et puis même, tu dis « Je ne sais pas si je l'aime. » Mais en t'écoutant, je me disais « Mais il peut aussi nous demander « Mais je ne sais pas si j'aime Jésus. Je ne sais pas si je crois en lui. Je ne sais pas si... »
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a des grandes questions aussi par rapport à la foi. Parce que quand on est enfant... On a suivi le Dieu de nos parents, il faut dire ce qui est. Ce n'est pas encore vraiment notre mais Dieu.
Ça devient dur pour les parents.
Mais c'est dur, la parentalité, Aurélie.
Il a parlé de contraintes au début. Oui. On dit « Instruis l'enfant selon la voie que tu dois mm-hmm. suivre mm-hmm. ». Que du coup, ça met un peu les parents dans une position délicate. Mais là, du coup, ben, c'est la même chose. Ça devient comme un peu plus difficile quelque part. Je le dis parce que je connais plein de parents qui... Eux-mêmes ont connu le Seigneur plus tard. Mm-hmm. Ils veulent que leur enfant ado, justement, rentre à l'église et tout. Mais ils n'ont pas pour eux une si grande connaissance que ça. Tu vois, du coup, l'enfant vient comme ça avec une question que toi-même, tu ne connais pas forcément.
Ah, mais c'est génial, mais ben oui, c'est clair, mais complètement. Okay. Ben oui.
tu ne connais pas et tu dis, je vais réfléchir avec toi.
Ouais. On va chercher la réponse
ensemble. On prend une feuille, ça. Tu as trouvé une idée là ? Ce pasteur, il dit ça. Ouais, mais l'autre, il dit ça. Ah ! Comment ça ? Trouver ouais. Ça c'est génial. Ouais. Là tu
bâtis avec lui. Ah, oui. Ouais.
Ah oui.
On est vulnérable.
Et encourage-le. Et encourage-le. Il va être trop fier.
Vraiment.
Moi j'ai ma maman. Elle l'a pas fait par manipulation, mais elle était tellement intelligente. C'est-à-dire qu'une fois, tu vois, elle me dit donne-moi une parole de Dieu. Moi j'ai bredouillé quelque chose. Tu vois, elle me dit je vais pas bien. J'ai besoin de ton aide. Mm. Toi d'habitude toujours en tant que parent, je vais t'expliquer, etc. Mm-hmm. Ma maman elle m'a dit Yvan aide-moi. Le truc est inversé. J'ai 13 ans, elle en a 40 et quelques. C'est quoi le problème ? Eh bien, je lui ai donné une parole, parce qu'elle allait très mal, elle avait une dépression nerveuse, et je lui ai dit, je lis un texte de la Bible, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, devant qui tremblerais-je ? » Il y avait un problème de famille terrible par rapport à son frère, etc. Elle s'est arrêtée et me dit, « Tu m'as donné une parole de Dieu ?»
Wow.
Moi, je suis arrêté. Wow. J'étais le roi du pétrole. Je me suis gagné au loto. là. J'ai gagné la coupe du monde spirituel. Ben, je suis pasteur.
Ben ouais.
Voilà. Non, donc, valoriser,
ouais.
quoi. Valoriser, le toujours confronter, quoi.
Non, c'est vrai. Bon, il y aurait mille et une choses à dire. L'émission arrive à son terme.
C'est pratique, c'est cool.
C'est super intéressant. Et tu vois, j'ai même pas donné mon verset du jour aujourd'hui. Je vous le donne. Allez, on va aller voir Jonas aujourd'hui. Jonas 3, au verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Pourquoi ce verset ? Simplement parce qu'on voit l'importance de l'obéissance. Alors, vous connaissez toute l'histoire de Jonas. Il n'a pas obéi tout de suite, mais il a fini par obéir. Et je crois que ce soit en tant que parent ou en tant que chrétien, eh bien, le Seigneur, parfois, va nous donner des mandats, va nous confier des responsabilités pour briller, pour aimer, et puis à nous d'obéir et de se lever, et conformément à la parole de Dieu, d'agir sur ce qu'il nous a dit. Yvan, merci pour ce super thème. Aurélie aussi, c'était super intéressant. Bon, bah, si vous en voulez plus, rendez-vous demain. Yvan sera encore avec nous. Conseil du coach demain, tu les fais toutes les rubriques. Hein. Allez, les coachs demain, tu as été expert en famille, maintenant coach. Demain, on va voir comment vaincre l'anxiété et l'angoisse. Et toi, tu répondras à la question comment réagir quand je fais une crise d'angoisse. Un thème vraiment
honnête,
d'actualité.
Hein. On va être honnête. Hein.
Mais oui, mais moi, je veux de l'honnêteté toujours sur ce plateau. J'aime ça. Donc demain,
même les pasteurs ont des gros problèmes.
Moi aussi, soyez honnête envers vous-même pendant que vous suivez ces émissions, parce que je pense que c'est nécessaire aussi d'être toujours transparent avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.